Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'une histoire, l'histoire de la Terre, avec Monsieur Patrick Royer, que nous avons déjà eu l'occasion de recevoir pour une émission Histoire de l'Homme. Et nous allons commencer cette nouvelle histoire de la Terre. Bonjour Patrick, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va, oui, et vous ?
Ben, ça va très bien, bien. Voilà. Voilà, alors on va commencer par comment elle s'est formée, la Terre sur laquelle nous vivons actuellement ?
Alors la Terre s'est formée il y a 4,567 milliards d'années.
Oula !
Oui, par l'agglomération de poussière, de gaz et de roches. L'ensemble tournait sur un disque plat autour du Soleil. Cette formation a duré 100 millions d'années.
Incroyable. Alors, est-ce qu'on peut imaginer comment était la Terre à ce moment-là ? Comment elle était ? Est-ce qu'on pouvait y vivre ? Je suppose que non.
La Terre était totalement inhospitalière. Imaginez une boule incandescente en permanence bombardée par des comètes et météorites. Cette période est qualifiée d'ADN, c'est-à-dire en référence à Hadès, le maître des enfers.
Oui, effectivement, on ne pouvait pas y vivre déjà, c'était clair. Alors, on sait que ça a été bombardé, comme vous le dites, mais est-ce qu'il y a des traces de roches, justement, de cette époque-là ? Est-ce qu'on peut en retrouver encore ?
Il n'y en a pas beaucoup, elles sont très très rares. On a retrouvé en Australie des grains de zircon âgés de 4,3 milliards d'années.
D'accord. Alors, le zircon, c'est la pierre dont on fait les diamants sur des bijoux, c'est
oui,
ça.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Alors, pouvez-vous aussi nous parler un peu de la formation de la Lune ? Parce qu'on ne peut pas parler de la Terre sans parler de la Lune.
Tout à fait. Alors, il y a 4,526 milliards d'années, une très grosse planète, Theia, a violemment percuté la Terre. Son noyau ferreux a rejoint le centre de la Terre, tandis que leurs manteaux respectifs ont été projetés dans l'espace, formant la Lune. À cette époque, la Terre tournait seulement en 6 heures.
Ah oui, donc elle tournait très vite alors.
Très vite.
Vous nous parlez de ce fameux noyau-là. Est-ce que c'était quelque chose qui était bénéfique pour la vie ou pas ?
Tout à fait. Le noyau ferreux était bénéfique. Il crée un champ magnétique qui nous protège du rayonnement venu d'espace. Sans cette protection, la vie serait impossible.
Alors donc, on en vient effectivement à ce que notre Terre est recouverte d'eau. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement de l'origine de l'eau ? Est-ce que c'est à la suite du bombardement ? Est-ce que c'est un autre état qui s'est produit ? Vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors ce qu'on est sûr, c'est que l'eau vient de l'espace. Alors les savants ne sont pas d'accord. Pour les uns, ça vient du bombardement d'origine et sa formation vient de la vapeur des volcans. L'eau était à l'intérieur du manteau et donc sortait par les volcans. Et pour des autres, c'est plutôt le bombardement tardif des météorites et des comètes.
D'accord. Donc, c'est encore des sujets de discussion entre certains savants et d'autres. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de la période ADN, là.
Oui.
Alors, il y a, j'imagine, parce qu'il y a des périodes dans l'élaboration de la Terre.
Tout à fait.
Après, qu'est-ce qu'il y a après l'ADN ? Qu'est-ce qui succède à l'ADN ?
Alors, à l'ADN succède l'archéen, ce qui veut dire « temps ancien ». Cette période représente à elle seule 85% de l'histoire de la Terre. À l'intérieur de cette période, on constate un bombardement intensif. Il s'agit d'un réagencement des grosses planètes du système solaire qui, par effet de billard, ont précipité sur nous des tas de corps.
Bon, ça me fait
penser. On en voit des traces sur la Lune.
Oui, encore maintenant ?
Ce qu'on voit sur la Lune, c'est ça.
Ah, d'accord. Mais alors, est-ce qu'on peut déterminer à quel moment la vie est apparue ?
Alors, la vie est apparue il y a 3,4 milliards d'années avec la découverte des stromatolites, construction microbienne, qu'on peut voir à Shark Bay en Australie.
D'accord. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, l'origine, est-ce qu'on pouvait vivre ? Est-ce qu'il y avait de l'oxygène à ce moment-là ? Et est-ce que cet oxygène était bénéfique pour la vie sur Terre ou pas ?
Alors, au départ, il n'y avait pas d'oxygène. Les organismes se nourrissaient du rayonnement solaire et du dioxyde de carbone en provenance des volcans, communément appelé gaz carbonique. L'oxygène était pour eux un gaz mortel. Pendant un milliard d'années, cet oxygène a oxydé le fer contenu dans les roches, donnant une couleur rouge ou rouille.
Oui.
Puis il s'est accumulé dans l'atmosphère. Formidable transformateur d'énergie, les espèces animales se sont adaptées. Je rappelle l'évolution, l'adaptation dans l'histoire de la vie, hein, de l'homme, de la vie. Et en fait, de gaz mortel, c'est devenu un gaz indispensable à la vie.
Indispensable à la vie, effectivement. Vous avez parlé de l'origine donc, de la Terre. Et il y a aussi cette période qu'on appelle bien souvent la période glaciaire. Est-ce que, bon, elle a eu lieu quand, cette période glaciaire? Parce qu'il y a eu plusieurs périodes, hein, justement, pour réadapter.
Il y a eu plusieurs périodes glaciaires. Alors, la première... Elle porte le nom de Huronienne et a eu lieu il y a 2,4 milliards d'années. Elle est provoquée par deux causes.
Alors, première cause, oui. Huronienne, là, c'est un rapport avec le lac Huron aux États-Unis, j'imagine.
Absolument,
hein, puisque je fais le rapprochement tout simplement.
Oui, tout à fait. Alors, les deux causes, c'est le piégeage du dioxyde de carbone par les bactéries réduisant l'effet de serre. Hein, on est d'accord, c'est le gaz carbonique, on en parle énormément actuellement.
Suffisamment beaucoup en ce moment,
effectivement. C'est gaz à effet de serre, et là, il y a un piégeage par les bactéries.
Par les bactéries.
Et deuxièmement, à l'époque, une activité beaucoup moindre du soleil, 75% de ce qu'elle est actuellement, ce qui fait que les deux conjugués donnaient une température de moins 50 degrés, et... donc, la Terre était une boule de glace.
Donc, effectivement, même s'il y avait de la vie, on ne pouvait pas y vivre.
Et la glaciation a pris fin avec la réapparition du dioxyde de carbone en provenance des volcans.
Voilà, avec l'éruption des volcans, etc. Voilà. Ah oui, alors, j'imagine qu'on a commencé à découvrir des noyaux, des cellules à noyaux. Et à quel moment on peut situer cette découverte ou comment ça s'est passé?
Oui, alors, c'est l'évolution des espèces hein, de la vie. Hein, d'abord, de cellules sans noyaux, c'est devenu des cellules à noyaux, il y a 1,6 milliard d'années. On pense qu'il y a eu symbiose de deux bactéries. Il y en a une qui a absorbé l'autre. Et on a le cas avec les bactéries pourpres chez les animaux et les cyanobactéries chez les plantes.
Alors, les bactéries pourpres, je me demande ce que ça veut dire, en gros.
Pourpres, elles sont rouges.
Elles sont rouges, hein, ça a un rapport avec la couleur.
Oui, tout à fait.
Ah, d'accord, ok. Bon, je vais jouer un petit peu la candide.
Les cyanobactéries vertes.
D'accord. Alors, bon, on a parlé de cette première glaciation, c'est pas évident à prononcer. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu d'autres périodes de glaciation?
Absolument. Glaciation. Il y en a eu deux autres, moins 750 et moins 650 millions d'années.
D'accord.
La Terre redevient une boule de neige.
Ah oui.
Alors, en fait, le problème, c'est pas comment c'est devenu une boule de neige, c'est comment ça s'est réchauffé. Parce qu'à l'époque, le dioxyde de carbone qu'on peut mesurer dans les terres n'était pas plus important qu'à l'heure actuelle. En fait, certains savants pensent qu'il s'agit du méthane, dont l'effet de serre est 30 fois plus important et a joué un rôle majeur pour le réchauffement.
Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'est ce qui se passe actuellement. On a de méthane dans l'air qui provoque cet effet de serre dont la Terre est victime. Enfin, voilà. Alors, justement, on en vient à l'effet de serre, la couche d'ozone. Dites-nous ce qu'il en est. Parlez-nous un peu de la couche d'ozone. Parce que tout le monde sait ce que c'est, mais comment elle s'est produite exactement?
En fait, c'est parce qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère. Le rayonnement solaire, etc., fait une réaction chimique, l'oxygène O2, ça devient de l'ozone O3, trois molécules d'oxygène. Et c'est formidable, cette ozone, parce que ça nous protège du rayonnement.
Des rayons UV, les violents, là.
Oui. La vie a pu apparaître sur Terre grâce à l'ozone.
À cette transformation qui s'est faite, effectivement. Alors, comme une fois n'est pas coutume, on va aller se promener en Suisse. On va changer un peu de secteur. On va aller se promener en Suisse et vous allez nous parler, Patrick, de ce qui s'est passé au Cervin.
Alors, il y a 600 millions d'années, la plaque européenne et la plaque africaine se sont rapprochées. La plaque européenne s'est soulevée et a formé des déplissements, quoi. Ouais. Alors, il faut savoir qu'au fond de la Tétis, il y avait des boues marines. Et il y avait du basalte volcanique. Tout ça, ça s'est retrouvé dans les Alpes. Et donc au Cervin.
Alors que ça venait de la plaque africaine, si j'ai bien
compris. Ça venait de la plaque africaine.
Voilà.
Donc en fait, au Cervin, en plein milieu des Alpes, vous avez des couches marines, vous avez des basaltes, Et vous avez des gneiss en provenance de la plaque africaine.
D'accord, d'accord. Une petite précision, la Tétis, c'est quoi ?
C'est un océan.
C'est un océan ? Il existe toujours ?
Ah ben non.
Non, hein ?
Non, non, il n'existe
plus. Non, il n'existe plus. Il y a peut-être... Voilà. Non. Voilà, non, mais ça, c'est très intéressant hein, de savoir qu'en Suisse, on est... On a un plateau sous-marin africain qui nous révèle quand même pas mal de choses. Parlez-nous de la faune alors des Diekara qui est vieille de 585 millions d'années. Je précise un point, c'est que là nous allons notre émission se fait en fonction
des périodes. Alors, on part de 4,5 millions et on arrive à maintenant.
Voilà, à maintenant. Donc c'est juste une précision.
Oui. Alors, il y a 585 millions d'années, apparaît la faune des Diekara. Le nom provient de collines australiennes où ont été découverts les fossiles.
D'accord.
Il ne s'agit plus de simples bactéries. On y trouve des premiers bilatériens, c'est-à-dire des animaux qui ont un côté gauche-droite, qu'on retrouve dans nombreuses espèces actuelles, dont les hommes.
Ben oui. D'accord. Alors, mais est-ce qu'on peut définir les premiers organismes qui ont pu coloniser la terre ferme ? Parce que ça, je trouve ça, très intéressant. Parce qu'on sait que la vie a démarré dans l'eau, quelque part. Mais alors, comment on est arrivé sur la terre ?
Ce sont des plantes qui se sont accrochées sur le rocher. C'est des mousses et des lichens.
D'accord. On parle des plantes. Mais ensuite, il y a eu les animaux, j'imagine.
Alors ensuite, les premiers animaux, c'est les insectes qui ont colonisé la terre ferme. Grâce à leurs cuticules qu'ils avaient sur le dos, qui les protégeaient du rayonnement.
D'accord. Bien, écoutez, on va se faire une petite pause musicale et on va reprendre notre émission qui est très, très intéressante avec Patrick Royer, notre professeur en sciences. À tout de suite. Alors, nous voici à nouveau sur Radio Grand Ciel, dans l'émission En Savoir Plus, avec à mes côtés Patrick Royer, donc comme je le disais, professeur en sciences, mais surtout un passionné des sciences. Alors, je vais revenir à la période des insectes qui colonisent la terre ferme. Alors, bon, s'il y a eu des insectes, il y a eu d'autres animaux qui ont suivi.
Heureusement pour nous.
Heureusement pour nous.
Alors, Après les insectes, bon, il y a plusieurs animaux, mais intéressons-nous aux animaux qui sont les ancêtres de l'homme, ce sont les tétrapodes. Le premier, Acanthostega, a sorti la tête hors de l'eau, mais il vivait dans l'eau. Hein, et suivi d'Ichthyostega, alors lui, il a vraiment colonisé la terre ferme. Ce sont nos ancêtres directs.
Hein. Mais je fais une petite coupure parce que moi, ça me fout un peu, enfin, excusez-moi, mais ça me donne un peu des angoisses, là. Savoir qu'on sort de l'eau avec des Ichthyostega, c'est quoi exactement? Des poissons?
C'est des tétrapodes. C'est comme nous, avec des pattes à 5 doigts, pattes avant, pattes arrière,
donc,
à 5 doigts.
D'accord, d'accord. Ah oui, donc nous sommes presque des tétrapodes.
Oui,
alors.
Oui, tout à fait. Bah oui.
Bon, je vous laisse la parole à nous.
Et la terre ferme a le double avantage d'échapper aux prédateurs, parce que les tétrapodes dans l'eau, ils se faisaient manger.
Oui,
hein,
oui, là,
et de trouver une nourriture abondante.
D'accord.
Mais ces tétrapodes ne pouvaient pas tellement s'éloigner d'un point d'eau au début.
D'accord, ils avaient besoin quand même de l'espace de l'eau, quoi, de l'eau. Hein,
oui.
D'accord. Mais alors, expliquez-nous alors comment ils se sont éloignés du rivage s'ils avaient peur, s'ils ne pouvaient pas. Quelle est la stratégie qu'ils ont développée pour justement aller plus à l'intérieur des terres et s'échapper un peu du milieu marin?
C'est surtout la reproduction.
Ah.
Il y a l'invention géniale de l'œuf. Hein, l'œuf va permettre de ne plus dépendre des seuls points d'eau. Tout le monde va l'adopter, y compris les mammifères, dont nos plus anciens cousins, les ornithorynques. Voilà.
Oui, ben, on sait bien que les ornithorynques, c'est presque le chaînon manquant entre l'animal et l'homme. En fait.
Alors les œufs, vous avez les poules,
oui.
Vous avez les crocodiles, vous avez les lézards, vous avez
ce qu'on appelle des ovipares, c'est ça?
Oui, avez les dinosaures.
Les dinosaures, oui, d'accord. Ah oui. Et alors, bon, une fois que tout ce petit monde est arrivé sur la Terre, bon, j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour eux. Hein. Comme on dit, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on peut se l'imaginer.
Non, non, hélas non. Hein. Il y a 250 millions d'années, une double et gigantesque éruption volcanique, d'abord en Chine, puis en Sibérie, a failli faire totalement, j'insiste bien, totalement disparaître la vie sur Terre. Plus de 90% de la faune aquatique a disparu. Fort heureusement, une infime partie a survécu et nous descendons de cette infime partie.
D'accord, d'accord. Oui, c'est une bonne chose. Mais oui, c'est incroyable. Mais alors ça, quand vous parlez de la découverte d'une éruption en Chine et en Sibérie, je pense que c'est parce qu'il est resté puis on a pu le définir. Alors, partant de là, à quel moment exactement sont apparus les dinosaures, les fameux dinosaures dont nos enfants raffolent hein.
Alors après cette période tourmentée, il y a une longue période stable et le climat aidant, les dinosaures sont apparus, se sont développés, et leur règne a duré 160 millions d'années.
Oui, d'accord. Mais ils ont disparu, je ne dis pas aussi vite, mais ils ont disparu totalement.
Disparition...
Comment ça s'est produit? Parce qu'on a plusieurs versions.
Alors, il y a plusieurs versions. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une disparition progressive... toujours à cause de l'activité volcanique. En Inde, ça s'appelle les trappes du Deccan. Trappe, ça veut dire en scandinave escalier, c'est-à-dire plusieurs couches de basalte, premièrement. Et deuxièmement, ce qui a donné le coup de grâce, c'est une météorite au Yucatan, au Mexique, qui est tombée et qui a donné le coup de grâce. Voilà.
Ah oui.
Mais c'est pas que la météorite, c'est aussi l'activité volcanique.
D'accord. Mais parce que quand vous parlez du météorite qui est tombé au Yucatan, au Mexique, est-ce que ça veut dire que là, c'était à cet endroit-là, il y avait le maximum de concentration de dinosaures?
Non, mais la météorite, je ne sais pas combien de milliers de bombes Hiroshima, et ça a couvert la Terre entière.
La Terre entière, voilà. D'accord. Alors, nous allons revenir aux glaciations dont on a parlé tout à l'heure, et j'imagine qu'il y a eu également, on a parlé des glaciations, j'arriverai jamais à prononcer ce mot-là, glaciations, Il y a eu, j'imagine, des périodes chaudes. Parce
absolument.
Que, hein, il y a eu des... Voilà, ça bouge quand même. Hein.
Absolument, absolument. Il y a 56 millions d'années, la période est très chaude. Au pôle, il n'y avait plus aucune glace et les eaux étaient à 17 degrés au pôle.
Ah, dis donc, pour se baigner, ça devait être bien, ça. Hein.
Ah bah oui. De gigantesques serpents ont vu le jour, comme Titanoboa, qu'on a découvert dans une mine au Colombie, une mine de charbon au Colombie. Il faisait 16 mètres de long et 2000 kilos.
Oh là là, voilà. Incroyable.
Voilà.
À l'heure actuelle, dans l'entremonde actuel, on n'en a jamais retrouvé d'aussi grand.
Non.
Non.
Non, non, mais ça, vraiment, ça dépend de la température. Pour vous donner un ordre de grandeur, les serpents en Europe sont grosso modo 1 mètre 20. Ensuite, plus au sud... dans l'Amérique, plus au sud, les serpents mesurent 1,50 m.
Plus on va vers le sud.
Et plus on va vers le sud, en Amazonie, là, les serpents dépassent les 2 mètres.
2 mètres. Voilà. Ah oui, d'accord.
Mais là, 16 mètres.
C'est déjà pas mal, hein? Oula. Bon, on a parlé de la Suisse, mais il y avait aussi le bassin parisien, qui, d'après ce que j'ai cru comprendre à un moment dans mes lectures diverses et variées, le bassin parisien se trouvait au fond de la mer.
Oui, parce que on comprend bien que comme les glaces étaient fondues,
le
niveau de la mer était remonté. Donc le bassin parisien était au fond de la mer. Et les dépôts sédimentaires ont permis par la suite des constructions des édifices parisiens comme Notre-Dame.
Ah oui, d'accord, oui. Alors, comme on a parlé plusieurs fois de volcanisme, avez-vous peut-être une petite histoire à nous raconter justement à propos de cette période de volcanisme ?
Voilà. Voilà. Alors en fait, comme vous le savez, le diamant... Le diamant est formé à partir du carbone. Et il se forme sous des pressions, des chaleurs et des pressions gigantesques au fond, en dessous de la côte terrestre. Et donc, à la lente remontée, le diamant est brûlé. Et c'est pour ça qu'il y en a très, très peu, d'où la rareté. Et là, à Kimberley, il y a une éruption volcanique en Afrique du Sud, à Kimberley. Et le diamant, il est remonté à une vitesse de 100 km/h depuis 3000 mètres de profondeur. Et avec un calcul, ça fait il est remonté en 2 minutes.
En 2 minutes,
ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de brûler.
Voilà. Et donc, c'est là qu'on trouve
les... Et c'est là qu'on trouve les diamants.
D'accord, d'accord. Alors, ça veut dire aussi que plus le diamant remonte très vite, plus on est sûr d'en trouver.
Voilà.
Mais s'il remonte très lentement, évidemment, il est brûlé en cours de route et on n'a plus rien. Alors, c'est formidable. Hein, c'est bien de savoir tout ça. On a toujours des informations... mais pas toujours aussi précise. Merci, Patrick. On va arriver maintenant au Quaternaire. Alors, que s'est-il passé à cette époque ?
Au Quaternaire, c'est une période arbitraire fixée par l'apparition du genre Homo. Pour se donner bonne conscience, les savants lui ont adjoint la glaciation dont ont connu les hommes préhistoriques. Ils pouvaient, je parle des hommes préhistoriques, ils pouvaient se rendre en Angleterre à pied sec. Le niveau de la mer était 130 mètres plus bas que maintenant.
Eh oui. C'est vrai que c'est important. C'est pour ça qu'il y a eu des migrations qu'on n'imagine pas, parce que maintenant, on est séparés, les plaques sont séparées. Bien, il nous reste très peu de temps, mais on va quand même continuer. Citez-nous, par exemple, une ou deux découvertes majeures concernant notre planète.
Alors, la première découverte, ce n'est pas évident pour nos ancêtres, c'est que la Terre était ronde. Et ça a été découvert il y a 500 ans avant Jésus-Christ par les Grecs. Et plus proche de nous, un calcul extraordinaire qu'a réalisé le grec Aristophane il y a 240 ans avant Jésus-Christ. Il a constaté qu'au solstice d'été à Sienne, au sud de l'Égypte, pas le Sienne italien, au sud de l'Égypte, les rayons du soleil étaient verticaux et éclairaient le fond des puits. En revanche, à Alexandrie, l'ombre portée sur les monuments était oblique. Et former un angle de 7,2 degrés. Si l'on divise 360 degrés du cercle par les 7,2, on obtient un segment de 1 cinquantième. Donc, Sienne, Alexandrie faisait 1 cinquantième de la circonférence terrestre. Et c'est alors que le chameau rentre en scène. le chameau a mis 50 jours pour parcourir les deux cités. Dans les mesures de l'époque, un chameau parcourait 100 stades par jour, soit 50 comme 100 égale 5000 stades, ce qui fait en kilomètres 787,5 kilomètres Sienne-Alexandrie. Et comme cette distance est la 50e partie du siècle, on multiplie par 50, ce qui donne 39 375 kilomètres.
D'accord, d'accord.
La mesure est ultra précise, car on sait que la Terre fait 40 070
kilomètres. Déjà à l'époque.
Déjà 240 ans avant
Jésus-Christ. Voilà, nous allons bientôt donc terminer notre émission sur ce sujet extrêmement vaste et très intéressant. Mais avant d'en terminer, voulez-vous nous parler un peu de la COP21, Patrick ?
Oui, tout à fait. Ben, la COP21, c'est les savants qui ont alerté les gouvernants sur l'absolue nécessité de maintenir la hausse de température à 2 degrés. Parce que si on ne fait rien, en 2100, la hausse sera de 4-5 degrés. À ce moment-là, le méthane, gaz à effet de serre extrêmement puissant, contenu dans le permafrost actuellement gelé, va s'échapper. Et ça risque d'être tout à fait catastrophique. Donc c'est une bonne prise de conscience actuellement de cette absolue nécessité.
D'accord, d'accord. Bon, bah, écoutez, on va en tenir compte, hein, bien sûr, en espérant, comme vous le dites, que les gouvernants de la Terre, de tous les pays du monde, en tiennent compte et puis fassent le maximum pour éviter justement cette catastrophe. Voilà, je vous remercie, Patrick.
Merci bien.
Je remercie les auditeurs de Radio Grand Ciel de nous avoir écoutés dans cette nouvelle émission, histoire d'en savoir plus, nouveau sujet plutôt. Et je vous dis à très bientôt, Patrick. Au revoir. Merci.